7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins.
Vous êtes d'accord qu'on parle des grandes personnes ?
Oui.
Comment devenir une grande personne ? Quand passons-nous à l'âge adulte ? Est-ce à l'adolescence, période des désillusions et des idéaux ? Étape particulière dont on se souvient avec nostalgie, tristesse, rarement sans émotion ? Ou devenons-nous adultes bien plus tard, une fois que nous avons une famille, si c'est notre souhait, un travail, des responsabilités, bref, une trajectoire balisée ? Quelles étapes de la vie nous font grandir ? Et quelles traces gardons-nous de notre adolescence et même de notre enfance ? Jack Parker, cette question vous obsède. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez demandé à une vingtaine de personnalités françaises de se prêter un exercice bien particulier, celui d'écrire une lettre à l'adolescent qu'ils ont été. Et de ces lettres, vous avez tiré un livre chez Flammarion, Lettre à l'ado que j'ai été. En face de vous, Fanny Dargent, bonjour.
Bonjour.
Vous avez voulu mettre des mots sur cette période, les 100 mots de l'adolescent. C'est le titre du glossaire que vous publiez, vous qui êtes psychanalyste et maître de conférence à Paris Diderot en psychologie. Et bonjour Maya Ernest.
Bonjour.
Vous avez, quant à vous, mis en scène la pièce de théâtre « Rien ne saurait vous manquer ». Cette pièce se penche sur votre génération, la génération Y, née en gros dans les années 90. Et aujourd'hui, vous êtes des adolescents à mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte avec vos doutes, vos questions et le mot « adulte » avec tout ce qu'il implique vous fait encore un peu peur, je crois. Alors, et vous, les voisins, les voisines, comment avez-vous vécu votre adolescence ? Et si vous pouviez parler à l'adolescent que vous avez été, tout est possible dans 7 milliards de voisins, que lui diriez-vous ? À quel âge êtes-vous devenu un adulte ? Et puis qu'est-ce que ce mot « adulte » veut dire pour vous ? On attend vos témoignages sur notre page Facebook ou bien au 33 1 84 22 71 71 et sur WhatsApp aussi, vous pouvez nous joindre désormais sur le même numéro 33 1 84 22 71 71. Et vous nous écrivez déjà sur notre page Facebook « Maki est à Kisangani en RDC ». L'adolescence est vraiment l'âge magnifique de la vie. Moi, je pensais être au top car je commençais à avoir des copines. Et comme je savais travailler sur les chantiers, déjà grâce au grand frère, j'avais de l'argent. Alors je me sentais comme un petit roi, un homme. Mais mon adolescence, c'était aussi l'alcool, la cigarette. J'ai découvert le monde. Et je dirais que l'adolescence m'a permis d'être éveillée et de bien comprendre la vie. Jacques est aussi enthousiaste. Il nous écrit depuis Tananarive à Madagascar. Pour moi, c'était l'âge d'or. Sortie avec les filles, choix de nos amis qui va construire nos comportements. Et puis, j'étais souvent réprimandée par mon papa quand je rentrais tard le soir. Quand j'avais 18 ans, j'avais toujours l'impression d'être un gosse, ni grand, ni mature. Je faisais beaucoup de bêtises. Et c'est à l'âge de 25 ans que je me suis sentie devenir un homme, un vrai, un adulte, au moment où ma première histoire d'amour a commencé. Aujourd'hui, je suis toujours avec la même partenaire. Alors, sur WhatsApp, Paco nous a laissé un message depuis le Sénégal.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Moi, je dirais, concernant l'adolescence, que c'est une période particulière parce que c'est le moment où l'on est encore sous la tutelle et la protection des parents. Pour ma part, je me suis senti adulte le moment où je suis sorti du domicile familial et que j'ai commencé à être responsable, c'est-à-dire à faire tout par moi-même. Et j'avoue que c'est à ce moment également qu'on réalise tous les sacrifices consentis par les parents et que c'était à notre tour maintenant de pratiquer tout ce qu'on a appris à la maison. Donc c'est pour cela que c'est important d'avoir une adolescence paisible pour pouvoir vivre mieux. Merci encore. À vous.
Et je vous lis aussi le message d'Elima depuis Kisangani. Je me suis sentie adulte quand ma voix a pris un autre son. À partir de ce moment-là, à chaque fois que je prononçais un mot, les filles me disaient « Waouh, il y a une voix d'homme ».
J'ai 23 ans et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte soudainement que j'étais en train de devenir un adulte.
Non mais qu'est-ce qu'elle a ?
Bah en fait, chaque année qui passe, elle vieillit d'un an. Et
ça craint.
Donc on va parler de ces moments où, pour devenir adulte, on a dû s'opposer à nos parents.
Quand tu te rends compte de ce genre de choses, c'est jamais dans les grands moments de ta vie. Jamais quand tu vas commencer ton premier jour de travail ou quand tu vas faire ton mariage ou ta communion. Non, c'est toujours dans les moments un peu nuls.
Pour donner un exemple, moi, la première décision d'adulte que j'ai prise contre mes parents, c'était de faire un bac L et pas un bac S, puisque j'avais d'assez bonnes notes pour faire S, mais j'avais pas envie. Donc j'ai dit, bah non, je vais pas faire un truc que j'aime pas faire. Et je ne l'ai jamais regretté, mais il peut arriver qu'on regrette.
C'est fini l'époque où tu pouvais te la péter avec ta montre flic-flac à l'école. Fini les soirées dirty où t'écris ton nom sur des gobelets et que t'es ivre de l'alcool. Maintenant, tu fais ce qu'on appelle des dîners. Ou pire, des apéritifs dînatoires.
J'aimerais commencer par une question assez vaste. Est-ce que, à votre avis, il faut aller à l'encontre de ses parents pour grandir? Est-ce que c'est un passage obligé?
Je t'ai appelé pour savoir si tu voulais passer un moment complètement austère autour d'une table carrée, sans ambiance, sans musique, sans rien, un peu nul. Je refuse de devenir un adulte.
Bonjour, bonjour. Mon nom est Dopeño Alain depuis Cotonou. RFI, 7 milliards de voisins, j'adore l'émission. Allez, bonne journée à tout le monde, excellente journée.
Norman, youtubeur français, ne veut pas devenir un adulte. Est-ce que vous diriez que vous êtes une adulte, Jacques Parker?
Tout juste. Je pense que ça fait vraiment pas longtemps. J'ai 30 ans et symboliquement, je pense que passer de l'autre côté de la barrière, effectivement, ça m'a... Je me sens différente depuis quelques temps. Je me sens plus sereine, je me sens moins... préoccupée par le jugement des autres, par des angoisses très infantiles, justement. Et pour moi, c'est ça, devenir adulte, c'est passer cette barrière du stress et de l'anxiété constante et de la représentation constante et de qu'est-ce que si je fais ça, on va croire que ça, et si je dis ça, ils vont me prendre pour ça. Et se débarrasser petit à petit de toutes ces angoisses et toutes ces sangles, finalement, dans lesquelles on s'est retrouvés emmêlés en pensant que ça allait nous protéger, sauf qu'au bout d'un moment, on ne peut plus bouger. Et voilà, je commence vraiment à me sentir de plus en plus légère et c'est hyper agréable en fait. Donc j'ai toujours des angoisses, mais c'est plus les mêmes.
Alors, adulte selon la définition du Larousse, qui est parvenu au terme de sa croissance, à son plein développement, ou qui fait preuve d'équilibre, de maturité. Maya Ernest, est-ce que vous vous sentez adulte? Vous avez 26 ans.
Alors oui, au vu de la définition, pas encore. J'espère en tout cas ne jamais me sentir définie, un produit fini. Donc je me sens encore dans cette période de latence, c'est vrai, avant 30 ans, puisque j'ai encore que 26 ans, où je ne me définis pas encore comme une adulte. Je ne suis plus une enfant, je suis en train de perdre une forme d'innocence, c'est sûr, de plus en plus, à chaque année. Mais j'acquiers aussi de plus en plus de sérénité, comme ma collègue.
Jacques Parker, pourquoi avoir demandé à des personnalités, comédiens, youtubeurs, journalistes, d'écrire des lettres à leur moi adolescent?
Je me suis dit que ça aurait plus d'impact que des anonymes parce que ce sont principalement des gens qui ont une communauté adolescente, donc des lecteurs ou des spectateurs adolescents, et que je trouve ça bien mignon, nous, d'être perchés sur notre montagne et d'avoir réussi à fonder une carrière sur des délires de saltimbanque, hein, parce qu'on est tous globalement des troubadours, mais, et de parler à des adolescents en étant perchés là-haut, comme si c'est bon, nous, on avait tout traversé, tout va bien. Et je sais qu'il y a plein d'ados qui nous lisent et qui nous regardent et qui nous disent « Oh, j'aimerais bien être comme eux plus tard » ou alors « Oh, moi, je serai jamais comme ça. Oh, moi, je me sens pas comme ci, comme ça. » Et je voulais juste leur rappeler que bah, on est passé par la même chose et que c'est pas une fin, loin de là. Heureusement, Dieu merci, parce que putain, sinon, ça vaut pas la peine. Mais enfin voilà, je voulais recréer ce lien entre l'ado et l'adulte et qu'on arrête de rester chacun dans notre camp à se regarder... Comme des abrutis, à pas se comprendre finalement, parce que nous, on a tout oublié, on a tout foutu sous un tapis, et eux, bah, ils sont encore trop loin, et ils sont persuadés qu'on est tellement déconnectés de la réalité, enfin de leur réalité, que ce qu'on dit n'a aucun impact pour les adolescents. Donc voilà, je voulais essayer de faire quelque chose qui pouvait toucher tout le monde en même temps, et je suis assez fière du résultat.
Et alors, en préparation de cette émission, vous m'avez dit, on a tous été des vieilles chenilles gluantes. J'ai bien aimé l'expression, qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est la métaphore classique de la chenille et du papillon, je pense qu'elle s'adapte beaucoup à l'adolescence parce que on se découvre chaque jour des nouvelles odeurs, des nouvelles sensations, des nouveaux poils, des nouvelles grosseurs par-ci par-là, la voix change, la couleur de la peau change, les cheveux changent, tout change et on se sent quand même assez gluant et assez pas fini quoi. À l'adolescence, moi je me souviens que mon nez, mes oreilles ont grandi avant tout le reste, donc j'avais une petite tête avec des trucs qui dépassaient des deux côtés, ça n'avait aucun sens. Ma tenue, c'était à la fois je suis la mode et à la fois je mets ce que je mettais déjà en primaire, donc pareil, ça n'avait... Enfin voilà, c'est une espèce d'agglomération de trucs qui finissent par créer une chrysalide dont on sort enfin, mais je pense qu'on n'en sort pas aussitôt qu'on croit. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont persuadés dans les sorties qui y sont encore. Il y a plusieurs stades dans la chrysalide quand même. Et oui, je pense que ça met du temps de se débarrasser de tous ces trucs gluants, mais ça vaut le coup.
Fanny d'Argent, l'adolescence est un sas vers l'âge adulte, un premier sas.
Alors, l'adolescence, déjà, on pourrait peut-être commencer par dire que c'est une invention, en tout cas en Occident. L'adolescence n'a pas toujours existé, elle n'existe pas forcément dans tous les pays. Chez nous, peut-être, alors c'est peut-être lié au luxe dans lequel nous vivons, mais c'est vrai qu'elle a tendance à s'étendre sur la durée.
Alors justement, on a une question de Doom au Sénégal qui nous demande, est-ce qu'il y a un intervalle d'âge bien précis pour situer cette adolescence?
En fait, pas tant que ça. Alors, un des mots de l'adolescence, qui est précisément le mot limite, qui renvoie à la question des frontières, et on voit que dans l'évolution actuelle, par exemple, on va se mettre à entendre des mots comme préadolescence, post-adolescence, etc. Donc, en fur et à mesure, on a le sentiment que c'est un territoire qui s'élargit en amont et en aval, et que peut-être dans quelques décennies, on sera dans une espèce de masse compacte d'éternel adolescent. Mais c'est vrai, en tout cas, que c'est une notion qui est construite, qui est une invention, qui ne va pas de soi. Le seul repère bien réel, c'est la question de la puberté, qui existe. Mais c'est vrai qu'en Occident, on a en tout cas perdu pour une grande part toute la ritualité qui permettait de marquer le passage de façon très claire et très rapide.
Il y a des vrais changements physiques qui s'opèrent.
Donc il y avait des rituels qui, en tout cas, accompagnaient socialement l'enfant vers l'âge adulte, de façon comme ça très, très ciblée, très symbolisée. On a beaucoup moins ça maintenant, donc c'est vrai que c'est un âge qui s'étend. C'est pas forcément un problème d'ailleurs, hein. C'est pas, y a pas de jugement à porter, mais en tout cas c'est une réalité de nos pays.
Alors parmi les 100 mots que vous choisissez pour l'adolescent, il y a poil, donc puberté, bande, fringue, ami et puis honte. La honte, oui. C'est un passage obligé, oui, dans l'adolescence.
Je crois qu'il n'y a aucun pas, il n'y a pas de caractère obligatoire. Je crois que chaque adolescence est absolument singulière. Donc en tout cas dans mon expérience, puisque j'ai longtemps travaillé avec des adolescents, il n'y a pas deux adolescents qui se ressemblent, mais en revanche ce qu'on peut repérer, alors il y a ceux qui vont pas bien, où là effectivement la question de la honte est souvent au premier plan, qui est une honte à la fois très intime, qui souvent est liée à une difficulté à s'approprier les transformations du corps, etc., et puis qui peut aussi s'inscrire dans une honte sociale, familiale, dans l'histoire d'où on vient, etc. Donc c'est un affect effectivement qui concerne pour le coup le moi. C'est un affect qui a vraiment à voir avec l'instance, enfin le moi, on parlait du moi adolescent.
Et le moi se construit.
Voilà, le moi se construit. Et en même temps, pour se construire, il ne peut pas faire l'économie d'une grande déformation. Moi, je dirais que c'est l'âge où, en tout cas, les choses ne se forment pas, elles se déforment. C'est l'âge du trouble, c'est l'âge de l'anticonformisme. Donc, c'est aussi un âge qui est potentiellement très riche. Il ne faut pas perdre cet aspect-là.
Alors, de l'adolescence à l'âge adulte, il n'y a qu'un pas, ou presque. Écoutez ces paroles recueillies par notre reporter Alice Milot dans un parc parisien, avec une question. Vous vous sentez adulte, vous ?
Oh, j'ai 86 ans.
Et alors, est-ce que vous vous souvenez à quel moment de votre vie vous vous êtes sentie devenue une adulte ?
À 20 ans, parce que j'avais mes deux filles à 23 ans.
Vous les avez eues très jeunes ?
Oui, je les ai eues très jeunes, et parce qu'il n'y avait pas les moyens de contraception et de choses qu'il y a maintenant. Et voilà, mais l'erreur, c'était, on appelait ça l'erreur des jeunes à l'époque, mais deux enfants, 18 mois, ça fait rapidement mûrir. Le fait d'être raisonnable, de prendre conscience qu'on est responsable, qu'on n'est pas seul. Il faut être attentif, il faut être là, il faut être présent, il faut... Ben, on ne peut pas le faire autrement. Bon, ben, on sortait moins, et voilà, c'est tout. Hein. On n'a pas fait de prouesse à ce moment-là. Et après, le temps passe très vite.
Ça a sécrété en vous des regrets sur la jeunesse d'avant ?
Ah non, 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 pas du tout, parce que j'ai bien vécu ma jeunesse, et puis j'étais très bien avec mon mari et mes enfants.
Quel âge vous avez ?
J'ai 24 ans.
Et alors, est-ce que à 24 ans, on se sent adulte ?
J'ai des parents quand même assez âgés, donc je m'occupe pas mal d'eux. Bon, ils se sont pas très bien occupés d'eux dans leur jeunesse, du coup ils sont pas mal malades, beaucoup de rendez-vous à l'hôpital, et puis comme je suis la dernière petite enfant, je m'occupe bien d'eux. C'est l'une des plus grandes responsabilités que j'ai eues jusque-là. C'est peut-être pour ça que je me suis sentie adulte justement par rapport à ça. C'est plutôt pesant parce que du coup on n'avance pas forcément dans sa propre vie et donc bon, du coup là je parle que du mauvais côté d'être adulte, mais c'est un peu ce qui me préoccupe en ce moment, donc forcément c'est ça qui me vient à l'idée. Voilà.
Vous avez quel âge ?
66 ans et demi. Le mariage, oui, ça a été un pas important. Il se trouve que moi, je suis restée chez mes parents jusqu'à mon mariage. C'était vraiment le grand pas.
À la fois, vous vous mariez, mais vous quittiez votre maison familiale, vos parents.
Absolument. Donc, je suis partie de Paris, mon mari était en province, donc ça m'a bouleversée, oui. De ne plus être sous la tutelle des parents. Ceci dit, j'étais plutôt sous la tutelle de mon mari, donc ça n'a pas beaucoup changé les choses, mais enfin, c'était quand même différent.
C'est vrai, parce que vous avez le sentiment d'être passée d'une tutelle à une autre tutelle ?
Tout à fait. Parce que je n'ai pas travaillé, ou très peu. Je suis restée à la maison, j'ai élevé les enfants, donc la tutelle, elle était quand même là. Hein. Mais ça a été une étape différente, une étape importante.
J'ai 26 ans.
Et alors, est-ce que vous vous sentez un adulte ?
Non, parce que je me sens encore beaucoup dépendant de mes parents. En fait, à la sortie du lycée, je ne savais pas trop quoi faire. Je suis parti à la fac et je suis allé en physique. C'était quelque chose qui était un peu ma solution de facilité. Je voulais être enseignant-chercheur, donc j'ai commencé un master de recherche en météorologie. Finalement, je ne me sentais pas à ma place dans la recherche. Donc j'ai voulu me diriger plutôt vers l'enseignement. Et là, cette année, je commençais le métier d'enseignant stagiaire. Et en fait, depuis tout ce temps, en fait, je vis toujours chez mes parents. Et quelque part, j'ai l'impression que j'arrive pas à me rendre autonome. Et c'est ça qui aussi me fait dire que je suis pas adulte dans ce sens-là, quoi. Mais de ne plus être forcément dans les jupes de sa mère, quoi.
Vous vous sentez dans les jupes de votre maman ?
J'essaye de m'en extraire, mais en fait, ma mère a arrêté de travailler quand je suis né. Donc elle s'est toujours occupée de moi, je suis son seul enfant. Donc c'est un peu un côté mère poule du coup. Par exemple, c'est ma mère qui s'occupe de mon compte bancaire. Et notamment, du coup, ça m'en a créé une espèce de peur de... Ça doit être extrêmement compliqué à faire alors que c'est complètement illusoire, quoi. De base, je n'aime pas manger seul, donc c'est parce qu'il y a mes parents que je mange en général.
Sinon, vous ne vous nourririez pas ?
Beaucoup moins souvent, oui. Quand j'étais en préparation à l'agrégation, j'étais à Lyon, donc à ce moment-là, j'étais plutôt seul. Il pouvait m'arriver de prendre un repas par jour ou un repas tous les deux jours.
Donc trouver un job et trouver un appart.
C'est ça, c'est l'objectif en tout cas à court terme, oui.
Alors trouver un travail et quitter le foyer de ses parents, c'est une des étapes importantes pour devenir adulte. Maya Ernest, je vous ai vu sourire en écoutant ce dernier témoignage.
Oui, c'est vrai que c'est une thématique qu'on aborde pas mal dans la pièce « Rien ne saurait me manquer », qui est cette précarité et cette instabilité dans le choix, dans les études qu'on fait, qui nous emmène parfois à faire ce qu'on appelle des « bullshit jobs », des gens qui se retrouvent à
des
faire
métiers absurdes.
Voilà, des métiers absurdes, des études qui leur conviennent pas, qui se réorientent et qui se retrouvent complètement perdus. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait se poser dans cette pièce la question de se dire pourquoi est-ce qu'on se sent perdu et comment est-ce qu'on peut commencer dès maintenant à essayer de se définir nous-mêmes et finalement de pas laisser les autres nous définir.
Parents, Fanny d'Argent, c'est un des mots de votre dictionnaire. Qu'est-ce qui se joue à l'adolescence par rapport aux parents et au rapport qu'on a avec eux ?
Alors sans doute beaucoup de choses, parce que c'est vraiment le point de tension le plus important, avec des mouvements extrêmement contradictoires qu'on a entendus dans le reportage déjà, c'est-à-dire qu'il y a la constante, c'était vraiment l'idée de quitter les parents, donc aussi être perdu, parce qu'être perdu, on peut pas échapper à cet aspect-là, et encore une fois, être perdu, c'est aussi une chance, parce que ça veut dire qu'on a la capacité de perdre. Pour être perdu, il faut pouvoir perdre, oui. Et qu'il y a qu'en perdant qu'on peut espérer trouver sa propre voie. Un des grands changements de l'adolescence par rapport aux parents, c'est que dans l'enfance, la question, pas seulement du désir, mais entre autres, est complètement fléchée. On sait où aller. On sait où aller, on sait ce qui est interdit, on sait là où on peut trouver l'amour. Et la flèche indique les parents. C'est le centre du monde, du point de vue de l'enfant. Et c'est ce centre du monde qu'il faut savoir quitter. Donc la flèche du désir, notamment, elle n'indique plus rien. Il faut inventer la direction, il faut inventer, et donc son boussole. Donc les parents sont à la fois... on doit s'éloigner d'eux, on doit les quitter.
Et on cesse parfois désidéaliser comme on pouvait
le
faire.
Voilà, il y a aussi effectivement, absolument, tout le travail de désidéalisation, qui peut être parfois très douloureux. Il y a le travail de désidentification. Alors on peut choisir, il y a plein de ruses après, hein, pour trouver des compromis. C'est-à-dire on peut choisir de tout faire à l'inverse d'eux, ce qui est une façon de ne pas les quitter finalement. C'est-à-dire qu'ils restent présents en référence. Mais en tout cas, c'est vraiment dans le lien aux parents que sans doute, en tout cas dans les processus qui sont engagés dans le lien aux parents, que se joue sans doute l'essentiel de ce qu'on appelle adolescence.
Alors je vous propose d'écouter un extrait de la pièce de théâtre que vous avez mise en scène, Maya Ernest. Rien ne saurait vous manquer, rien ne manque, surtout pas de la colère. Attention à vos oreilles.
Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'exigence, je n'ai pas de compassion, je n'ai pas de combat, je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de contrat à durée déterminée. Je n'ai pas de contrat à durée indéterminée. Je n'ai pas Snapchat. Je n'ai pas de conviction politique. Je n'ai pas de folie. Je n'ai pas les moyens. Mais j'ai de l'énergie, j'ai des désirs, j'ai le rock'n'roll, j'ai une coloc sympa.
Une colocation sympa, c'est déjà pas mal. Alors pourquoi autant de cris et de colère, Maya Ernest ?
On s'est retrouvés avec la compagnie Avant l'Aube et on s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'on est perdu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas qui aimer, comment aimer, quel travail nous conviendrait ? Et il y a de la colère, il y avait de la colère derrière tout ça, on s'en est rendu compte.
Parce qu'on n'a pas de réponse ?
Parce qu'on n'a pas de réponse et parce qu'on est impuissant, parce qu'on a un sentiment d'impuissance. On a une grande conscience de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas dans les générations précédentes, grâce aux médias, aux réseaux sociaux. Et face à ça, on a une forme d'impuissance et on a une forme de colère. Et chacun l'exprime comme il veut. On le voit en ce moment, il l'exprime dans la rue, dans les ads, dans les facs. Nous, on l'exprime au théâtre. Mais il y a vraiment, une envie de trouver des réponses. Mais après, comme le disait Fanny, se sentir perdu, c'est aussi un luxe, quelque part. Et je crois que cette perte d'innocence-là, en fait, elle est, on recherche une autre forme d'innocence. On en perd une, mais on en recherche une autre. Et nous, on en recherche en faisant du théâtre, par exemple. On recherche à rester des enfants, à continuer à jouer. Et je crois que chacun s'organise, les jeunes s'organisent aujourd'hui, dans plein d'endroits différents et continuent d'essayer de trouver une forme de nouvelle innocence, de nouveaux rites, de nouvelles choses à inventer.
Jack Parker, dans votre ouvrage Dedo, humoriste français, écrit que les ados sont comme des points d'interrogation en basket. Et en fait, il y a l'idée que ce point d'interrogation persiste tout au long de la vie, qu'on reste toute sa vie un point d'interrogation ambulant. Et ça rejoint peut-être un peu ce que dit Maya Ernest, l'idée qu'on a toujours des questions qui persistent.
Ah oui, mais tout à fait. Mais je pense que c'est un truc dont je suis assez convaincue, c'est que les certitudes, c'est un truc de vieux con, et c'est aussi un truc de jeune con. Et la seule certitude qu'on ait dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir. Le reste, ça peut changer. Donc les convictions, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça a un tronc commun, ça peut évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'étais petite, je me suis dit, il faut qu'on soit tous égaux et que tout le monde soit heureux. Ça a évolué en je m'intéresse aux causes LGBT, à la transidentité, à tout un tas de choses dont j'avais pas conscience quand j'étais plus petite. Mais le tronc reste le même. Alors qu'une certitude, je trouve que c'est vraiment un truc qui est dans une case plein de limites et plein de moi, je pense ça et je penserai que ça jusqu'à la fin de mes jours. Et je trouve ça horrible et odieux, je déteste. Et je pense que c'est un passage qui est un peu obligé, en tout cas dans notre société, à l'adolescence et au début de la vingtaine, c'est être plein de certitudes et être persuadé. Il nous faut des trucs palpables, concrets, auxquels s'accrocher. Il nous faut absolument, il faut savoir qui on est, à quoi on correspond, vers quoi on tend. Et on a besoin de se figer et je pense qu'au fur et à mesure, on se rouvre de nouveau à ces incertitudes et à ces doutes et à ces « aujourd'hui je pense ça, demain on verra, je sais pas, c'est pas grave ». Et je trouve que c'est plus sain de faire le chemin dans ce sens-là plutôt que l'inverse, c'est d'être juste flou et un jour se dire « non, je vais m'endurcir et je vais rester dans cette certitude-là et je n'en bougerai pas », ce que je trouve excessivement triste.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez pour vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et on va accueillir un voisin tout de suite.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Fayala.
Bonjour les 7 milliards de voisins. Bonjour à mon sous-préfet Namori Doumbouya ici à Doko, en Guinée.
Alors vous êtes à Doko, donc en Guinée. Vous avez 31 ans. On vous écoute Fayala.
Le sujet m'intéresse aujourd'hui parce que vous savez, de l'enfance à l'adolescence chez nous en Afrique est synonyme de tendresse. Bon, même, c'est mon cas particulier, déjà enfant, moi, à l'âge de 4 ans, j'ai quitté mon père, ma mère, donc pour rejoindre ma tante à Cancan, la deuxième ville de la Guinée. Et lors ici, j'ai été très bien traité avec autant de tendresse par la tante. Elle a fait tout pour me mettre bien, hein, pour me faire en sorte que j'oublie déjà les parents. Mais à l'époque, déjà, je n'avais pas la conscience qu'elle n'était pas ma maman, que mon cousin qui était son fils n'était pas mon père. Donc d'ailleurs, c'est le lieu, le moment de dire aujourd'hui bonjour et grand merci à M. Steve Konaté qui travaille à la DPE de Cancan, qui a tout fait pour me donner une éducation, qui m'a forgé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, après avoir passé le cap de l'adolescence, je suis rentré en plein pied ferme dans la lutte. Donc,
à quel moment est-ce que vous êtes devenu adulte?
Donc,
comment
je me suis, vous savez, on est adulte dès qu'on franchit le cap de 18 ans. Mais bon, moi, je me suis rendu adulte quand un peu j'ai perdu ma tante. À l'époque, je faisais mes études universitaires à Conakry. Et justement, c'était en 2010. C'est en ce moment que ma maman et ma tante qui était très tendre avec moi, et puis quand du coup j'ai appris son décès, j'ai dit bon, de toutes les façons, c'est de là que j'ai repris conscience que désormais ma responsabilité me revient. La personne qui était là, qui avec beaucoup de tendresse me traitait, qui m'adorait et puis qui me chouchoutait dans nos rapports chaque jour que Dieu faisait, vient de me quitter. Donc,
c'est comme ça que vous avez eu le sentiment de grandir et de prendre vos responsabilités.
Oui, c'est en ce moment que j'ai repris mes responsabilités. J'ai dit, tiens, il faut que je sache désormais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, connaître mes droits et mes devoirs, malgré que déjà j'étais rentré à l'université. Donc, à partir de là, je me suis concerné, responsable désormais de mon destin.
Merci, merci beaucoup Fayala pour ce témoignage. J'aimerais vous lire aussi le message de Kader au Burkina qui nous écrit sur WhatsApp. Moi, je me suis sentie adulte quand j'ai perdu mon père. J'ai compris très tôt que je devais me battre et ne plus compter que sur moi-même. Fanny Dargent, est-ce que vous voulez réagir à ces témoignages qui montrent aussi des entrées dans l'âge adulte
Là, en tout cas, forcées. Dans les deux qu'on vient d'écouter, il est question d'une perte réelle. Donc, il y a sans doute, à cet âge-là, lorsqu'une perte réelle se présente, enfin, perdre un parent, sa tante, donc qui a été, si je comprends bien... qu'il a élevé, donc un équivalent maternel, sans doute que la question du deuil réel rencontre la question d'un deuil plus symbolique, plus intérieur, qui est le deuil, on le disait tout à l'heure, des idéaux, le deuil du corps, de l'enfance, enfin, toute une série de deuils qui inscrivent aussi la question de la séparation et de la mort. On sait que c'est l'âge où il y a beaucoup aussi de tentatives de suicide. Ce sont des réalités aussi qui montrent que la question de la mort et de la perte traverse aussi cette période.
Nous sommes en ligne avec une voisine, Déborah, à Saint-Mandé, en région parisienne. Bonjour Déborah.
Oui, bonjour. Alors moi j'ai 72 ans et je ne me rappelle pas qu'on parlait de crise d'adolescence, pas du tout, absolument pas. Ce qu'on voulait c'est être majeur. Alors évidemment on était majeur à 21 ans. Mais il y a des gens qui travaillaient très tôt, puisque l'école, c'était que jusqu'à 16 ans. Moi, j'ai eu la chance de faire des études universitaires. À 17 ans, j'étais en hippocagne et tout ça, mais ce n'était pas la grande majorité. Et je pense qu'on est adulte à partir du moment où on est indépendant, qu'on travaille et qu'on est obligé d'avoir des responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire?
Et vous gardez un beau souvenir de cette période-là, de votre adolescence?
Oui, mais il faut dire que c'était... je ne dirais pas les 30 glorieuses, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup. Ça m'énerve un peu, ce thème de 30 glorieuses, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup, vous savez. Même les personnes âgées, il n'y avait pas toutes les aides qu'il y a maintenant. Alors, c'est à relativiser tout ça. Mais, oui, on était... Moi, j'avais la chance d'aller au lycée. Tout le monde n'allait pas au lycée, alors... je vois pas, j'avais pas de grosses revendications. Je voulais avoir du rouge à lèvres et puis ne plus me couper les cheveux, avoir un chignon, c'est tout. Mais on était plus impliqués par nos études quand on pouvait avoir la chance d'en faire, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Hein. Mmh. Et alors en hippocagne, en cagne et tout ça, je peux vous dire que la crise d'adolescence, ça a passé après. Hein, parce qu'on bossait, mais on était un petit peu obligés. Et ce que je trouve à l'heure actuelle, c'est que du fait qu'il n'y a pas de travail, que c'est très difficile pour les jeunes, ils sont obligés de rester chez les parents. Et quand on reste chez les parents, qu'on a en fait une sorte de tutelle, eh bien on ne peut pas s'émanciper, on ne peut pas en finir de la crise d'adolescence. Mmh. Ce n'est pas de la faute des jeunes. C'est le contexte qui s'y prête. Mais enfin, de travailler à 13 ans comme l'a fait mon père et à 14 ans ma mère, c'est quand même pas la solution non plus. Hein. Mmh. Parce que en réalité, je suis sûre que ces pauvres mômes là qui travaillent en Asie et tout ça, ben, ils grandissent très vite. Hein. Ils sont obligés, et des fois même, il faut qu'ils s'occupent des frères et sœurs et tout. Et je pense que dans ma génération, on a été super gâtés, hein. Vraiment.
Merci, merci beaucoup Déborah pour ce témoignage éclairé et éclairant. Fanny Dargent, vous voulez réagir ?
Non, c'est juste le mot rouge à lèvres que je trouve très beau, alors qu'il y a une entrée d'ailleurs de
nos dictionnaires. Qui est dans le dictionnaire, effectivement.
Et alors, moi je pense que c'est à tempérer, parce qu'effectivement il y a des évolutions, des périodes, il y a un chômage qu'il n'y avait pas à l'époque, etc. Mais en même temps, il y a justement des choses qui ne changent pas. La question du rouge à lèvres, je trouve, ça symbolise sans doute cette question-là, c'est quelles que soient les générations. Il y a sans doute des petits objets du quotidien de l'adolescent qui viennent symboliser quelque chose qui ne bouge pas, c'est-à-dire là en l'occurrence le désir très fort de devenir une grande, de devenir une femme. Donc et avec tout ce que ça engage de difficultés, d'achoppement éventuellement. Et donc ce mot, je trouve qu'il symbolise très bien l'adolescence pour les femmes en tout cas et les filles. Pour les garçons, je sais pas lequel ce serait, mais en tout cas ouais.
Rouge à lèvres. Les voisins, les voisines, vous restez avec nous. Nous parlons de l'adolescence, tremplin vers l'âge adulte, si on choisit de l'emprunter. Et tout de suite, un artiste qui a du mal à passer le cap. Qui sait, il est peut-être un peu trop tôt pour cela. Aurel San, note pour trop tard sur RFI.
J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. T'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde, parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y'a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question, t'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir. Tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok.
Quel adolescent avons-nous été et quel adulte sommes-nous devenus ? Vaste question aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. On tente d'y répondre avec Maya Ernest qui a mis en scène la pièce de théâtre Rien ne saurait vous manquer. Une pièce sur une génération de l'entre-deux qui hésite à grandir ou alors grandit sans le savoir en prenant connaissance de ses failles mais aussi de ses forces et de ses questionnements. Également avec nous Jacques Parker qui publie Lettres à l'ado que j'ai été, des lettres de 27 personnalités françaises, artistes pour la plupart, qui se sont prêtées à cet exercice schizophrène et qu'on imagine en même temps très instructif, même s'il n'est pas toujours simple de se replonger dans les temps troubles de son adolescence. Et puis Fanny Dargent, psychanalyste, qui publie quant à elle récemment aux éditions Que sais-je un dictionnaire tout particulier, les 100 mots de l'adolescent. Alors les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et vous nous laissez aussi vos messages vocaux au même numéro sur WhatsApp. Florilège.
Salut les voisins, à l'âge de 17 ans déjà, moi je me sens déjà être adulte.
Bonjour 7 milliards de voisins, mon nom c'est Ibrahim, depuis Niamey. J'ai vécu mon adolescence avec difficulté, je me sentais seul, isolé, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais petit à petit, on arrive à relever les défis et on grandit avec l'âge et on comprend ce qui nous arrive.
Bonjour, chers voisins. Moi, c'est Berthe Manga. Je pense que j'ai été adulte plus tôt qu'il ne le fallait. Ce qui veut dire qu'à partir de 9 ans, 8 ans, on nous réveille à 3 heures du matin pour faire le ménage avant d'aller à l'école. C'est nous qui lavions les couches des bébés et ainsi de suite. Je pense à cette période avec beaucoup de tristesse. Si à partir de 8 ans, on est réveillé à 3 heures et on est couché à 22 heures, c'est qu'on n'a pas eu d'enfance.
Bonsoir, fille. Je vous parle depuis Sakété, Bénin. Moi, je me suis rendu compte que je me sens un peu devenu adulte. C'est au moment où j'ai commencé par sortir avec des filles.
Chez les Paul, quand même, on passe à l'âge adulte très tôt parce qu'on se marie très vite. Déjà 19 ans, 20 ans, on se marie.
Oui, allô, RFI. Bonjour. Quand est-ce que je me suis senti grand ou adulte? Enfin, je l'ai senti personnellement lorsque j'ai commencé à ressentir cette approche vers le sexe opposé. Et ben, c'est alors que j'ai compris que non, là, je suis grandi. Je suis venu à l'étape où je suis en train de vouloir affronter la réalité de la vie.
Bonjour les voisins et les voisines, je suis votre voisine du Congo RDC. Moi, j'ai été maman très tôt. J'étais qu'un enfant avec un enfant dans le mais. J'ai quitté le Congo pour venir en Europe. Je continue à faire des enfants, donc je ne connais rien de l'adolescence. Merci beaucoup.
Fanny d'argent, des sentiments mitigés en nos voisins et nos voisines, et puis se révèle ici de vraies blessures, le sentiment de ne pas avoir pu vivre son adolescence, voire même son enfance.
Oui, parce que jusqu'à présent, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on était resté dans une approche assez soft, assez légère de l'adolescence. Sans vouloir dramatiser, il y a aussi d'autres réalités qui, autour de cet âge, dans ce qu'on vient d'entendre, là, ça semble très lié à des réalités sociales réelles, encore une fois, ou du fait d'une histoire sociale, familiale, il n'y a pas le temps de s'attarder à cette période de la vie.
On doit travailler très jeune.
Voilà, travailler jeune, etc. Prendre la place, justement, des adultes dans les tâches du quotidien. Et puis, d'autres fois, ce sont, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés en hospitalisation pour adolescents, en psychiatrie pour adolescents, ce sont des adolescents qui n'ont pas des difficultés forcément liées à un contexte social, même si ça peut être le cas, mais qui vont rencontrer ce qu'on appelle des troubles psychiques qui peuvent être assez graves à cet âge, et donc qui les conduisent non pas à s'occuper de plaire, séduire ou ce qu'ils vont faire plus tard, mais se retrouvent dans des services d'hospitalisation. Donc là, on est dans une dimension plus, qui peut être plus inquiétante et en même temps à un âge où les symptômes peuvent être très massifs, très inquiétants pour le coup, mais c'est aussi le côté assez miraculeux de cet âge, c'est que les choses peuvent aussi beaucoup évoluer. J'ai eu des patients qui, autour de 14-15 ans, étaient vraiment dans des états de souffrance psychique gravissimes et qui se récupèrent très bien quelques années plus tard et qui deviennent des adultes même parfois très intéressants.
En tout cas, il se joue quelque chose d'important à cette période-là, en termes même de souffrance.
Oui. Alors, c'est impossible de l'expliquer comme ça en quelques mots. Et puis, de toute façon, ça reste souvent... les causes sont souvent multiples. Hein. Pourquoi un adolescent qui a grandi dans une famille aimante, avec tout ce qu'il faut, se met à aller aussi mal à l'adolescent? Donc, il y a aussi des enjeux psychiques, inconscients, qu'on ne peut pas toujours mettre à jour. Mais en tout cas, c'est un âge où il y a une vraie fragilité. Alors, entre autres, parce qu'il y a tout ce réaménagement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire se séparer, s'éloigner de la famille, se construire soi-même, faire face à des transformations corporelles, faire face à la question de la sexualité. Et c'est souvent au cœur, d'ailleurs, des troubles de l'adolescence. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire au lieu d'être justement porté par des désirs nouveaux, qui le porte à la rencontre d'autres adolescents de son âge, un adolescent va le vivre comme quelque chose d'extrêmement persécutant. Et donc c'est là où souvent ils vont consulter, où on peut les récupérer en hospitalisation.
Jacques Parker, dans votre ouvrage, on sent un vrai mal-être hein, décrit par ceux qui se prêtent au jeu de ces lettres et qui se remettent dans les baskets de leur adolescence. On sent des complexes physiques très prononcés qui ont pu leur valoir des insultes, des brimades à l'école. C'est vrai que c'est aussi une période très cruelle, cette adolescence-là.
Oui, ça peut être extrêmement violent. Dans mon cas, j'ai été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire. À l'époque, on n'appelait pas encore ça, c'était tout nouveau. On commençait à parler de phobie scolaire et tout ce genre de trucs. Et donc, pendant mes 4 ans au collège, j'ai été frappée, insultée, harcelée tous les jours. Et ça a été extrêmement douloureux parce qu'avant ça, j'étais une enfant très éveillée, très sociable, très curieuse. Enfin, j'étais tournée vers le monde et j'avais énormément de potentiel. Et il a été complètement étouffé et piétiné par une bande de crétins au collège. Mais ma colère, elle se tourne surtout aujourd'hui vers les adultes qui étaient en charge de s'occuper de nous et qui ont soit tourné la tête, soit participé à ce harcèlement. Ce que je trouve absolument, enfin, que ça survienne entre enfants du même âge, je pense qu'il y a une question d'éducation aussi importante à revoir parce que je commence à en avoir marre du discours de les enfants sont cruels, c'est normal. Non, c'est effectivement, on teste nos limites à cet âge-là, mais c'est pas parce que on va faire un croche-pied à quelqu'un un jour pour voir comment ça fait qu'on va devenir, enfin, on est forcé de continuer à suivre ce chemin et de devenir un tyran. Et mais surtout, oui, c'est les adultes qui me disaient ça et qui me disaient « Non, mais tu verras, l'adolescence, c'est les meilleures années de ta vie. » Et je me dis « Bah, en fait, je m'arrête là. Je vois pas pourquoi je veux continuer. Si ça, c'est les meilleures années de ma vie, bah, je vois pas l'intérêt de continuer, franchement. » Et j'ai eu ma première envie de mourir, je l'ai eu à 12 ans. Ce qui a été extrêmement violent parce que je passais vraiment d'une enfance pleine de vie et pleine de joie à je me suis vidée en quelques années et je me suis dit « Bah... » Il n'y a pas d'espoir, quoi. Je ne vois pas l'intérêt de continuer. Heureusement, j'ai continué et je vois donc aujourd'hui que j'ai bien fait et qu'on peut effectivement s'en sortir.
Et
même
comment
en...
vous avez retrouvé espoir ?
Ah, ça a été compliqué. C'est un cheminement, une bataille, une mère qui a été extraordinaire avec moi et qui ne m'a pas lâchée. J'ai 30 ans, j'en suis à ma deuxième thérapie. Ça n'a pas été simple. Mais voilà, je me suis trouvé des rêves, je me suis entourée de gens qui me soutenaient, qui voyaient ma valeur, même quand moi je la voyais pas, et qui m'ont aidé à me tirer vers le haut. Ce qui a été compliqué parce que souvent quand on est dans un mal-être comme ça, on a tendance à s'entourer de gens qui sont aussi dans un mal-être. Donc au début, on a une sensation de confort et de « Ah, enfin, on se comprend !» Sauf que très vite, on s'enlise parce qu'il n'y a personne pour nous tirer vers le haut. Donc j'ai eu une bande de potes comme ça qui s'est effondrée, où vraiment au bout de 2 ans, c'était juste, on se regardait en se disant « Qui est-ce qui va mourir en premier ? Ça va être l'effet domino. » Heureusement, il n'y a rien eu de tout ça, on s'en est tous sortis. Mais au fur et à mesure, oui, j'ai appris à choisir mon entourage en fonction de ça. Des gens qui m'encourageaient, qui croyaient en moi, et à prendre confiance en moi et en mon talent. Et ben voilà, ça a payé aujourd'hui, quoi. Je suis vraiment très contente d'avoir continué.
Comment apprendre à être heureux ? C'est aussi une des questions qu'on se pose en grandissant. Maya Ernest, l'un des personnages de la pièce que vous avez mise en scène, le dit d'un air déterminé, comme s'il avait besoin de s'en persuader. « Je vais être heureux, je vais être heureux. » Alors, comment on fait ?
Alors, je n'ai pas de recette miracle pour être heureux. Mais je crois que se poser la question déjà tous les jours, de se demander... qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est une bonne technique. Et puis surtout et inventer de nouvelles choses. Je pense rester créatif, inventer de nouvelles choses et se regrouper. Donner de place au collectif, quoi. C'est-à-dire se regrouper entre jeunes, dans des associations, pour faire de l'art, pour faire de la politique et réfléchir ensemble et être créatif, inventer nos nouveaux rites. Inventer de nouvelles pour remplacer le religieux, pour remplacer toutes ces choses qui s'effondrent dans notre société à nous, en tout cas en France, inventer de nouvelles choses, rester voilà, éveillé.
On a Ibrahima qui nous écrit sur Facebook « Je suis devenue adulte quand j'ai su répondre à mon père ». On revient à cette question des parents, Fanny Darjan, et de ce rapport aux parents, et à s'affirmer en fait aussi, c'est ça l'idée.
Oui. Là, c'est donc la question à la fois de s'affirmer et aussi de faire face, ou en tout cas de remettre en question une autorité qui, pendant l'enfance, était inamovible. Donc répondre à son père, on peut se dire effectivement, en tout cas répondre à l'autorité, alors ça peut être des équivalents, les profs, etc. Donc c'est à la fois, il y a quand même une dimension, tout dépend du contexte, mais généralement ça reste, du point de vue de l'adolescent, assez jubilatoire, de se rendre compte que tout d'un coup, il commence à avoir des outils, pas forcément des outils physiques, hein, les poings, mais surtout au niveau de la parole, pour pouvoir affirmer un point de vue face à celui des adultes, alors que pendant toute l'enfance, on reste quand même pris dans cette logique où ce sont les grands qui savent, et non seulement ils savent, mais en plus ils savent tout un tas de choses qu'ils nous cachent. Et donc à l'adolescence, il y a tout ce moment de bascule qui est aussi source de plaisir. Hein. Quand la pensée se met, on commence à avoir une pensée propre, et une pensée qui peut entrer en contradiction avec celle du monde des adultes.
On a également une question qui nous parvient sur WhatsApp de Jean-Luc à Cotonou. Est-ce que protéger son enfant ne constitue pas un handicap à sa maturité ? Maya Ernest.
Non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve qu'on entend trop souvent « mais il faut te préparer à la vraie vie, il faut que tu vois comment ça va être dur », et cette espèce de logique du pire pour éduquer les enfants. Moi, personnellement, j'étais dans une école nouvelle à pédagogie freinée Montessori, et on m'a beaucoup dit « mais tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la gueule quand tu vas arriver au lycée, quand tu vas arriver à Paris, tu vas voir la vraie vie ». Et je trouve ça... En effet, j'ai parfois été surprise, mais ça m'en... En aucun cas ça m'a handicapée dans la vie, et je trouve que c'est triste d'éduquer les enfants en leur disant voilà la société de merde dans laquelle tu vas vivre, et du coup on va t'éduquer dans ce, en te préparant à ça. Il faut préparer au meilleur, il faut préparer à l'idéal pour faire que les gens puissent inventer de nouvelles choses, quoi. Sinon je trouve que c'est dommage.
Jacques Parker, vous êtes d'accord?
Ouais, je pense que c'est un truc dont on peut difficilement se rendre compte aussi tant qu'on n'est pas parent. Je déteste cette phrase, ça fait vieux con, mais c'est la réalité. Parce que j'en ai beaucoup parlé avec ma mère, et ça a été son combat justement pendant toute cette période noire qui a été mon adolescence, de me protéger sans m'isoler non plus. Elle a pensé à me changer de structure pour, avant que ces histoires de harcèlement scolaire, elle avait pensé à me mettre dans une structure justement alternative. Et elle se disait, d'un côté... ce sera motivant pour elle parce qu'elle sera dans un environnement qui est mieux foutu, et en même temps c'est la mettre en marge très très tôt, et elle a, résultat, je suis restée dans un système classique jusqu'à 16 ans où j'ai quitté le lycée à 16 ans, et j'y suis retournée à 21 ans pour passer mon bac. Donc finalement on a trouvé une structure alternative, mais bien plus tard. Et c'est vrai qu'elle m'a dit c'est juste regarder une espèce de chenille sur un fil et savoir, on sait pas trop de quel côté elle va tomber, et on est juste là en attendant, en se disant bon, si elle tombe je la rattrape, mais je sais pas trop à quelle sauce elle va être mangée. Et ouais, ça a été compliqué pour elle de trouver le juste milieu entre son rôle de mère et ses impulsions de mère, quoi. Son instinct maternel de non, touchez pas à mon enfant, mon pauvre bébé, parce qu'elle savait qu'il fallait pas tomber là-dedans. Et en même temps, c'est difficile quand on voit certaines choses que vivent nos enfants de pas intervenir et pas le mettre dans une bulle en disant voilà, comme ça il t'arrivera plus rien.
Alors j'aimerais qu'on termine cette émission en citant un extrait d'une auteure, hein, Marion Seclin, qui s'adresse à l'ado qu'elle a été en disant « Tu vas tomber amoureuse, tu vas être aimée, mais tu dois comprendre que la relation la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. » Est-ce que c'est pas ça, devenir adulte aussi, apprendre à se connaître si. Et à s'apprivoiser?
Si, complètement. C'est un truc que j'ai commencé à me répéter justement quand j'étais dans mon processus de guérison, qui était « La seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, c'est toi-même. » Donc autant faire en sorte que la relation se passe bien, parce que sinon ça va être compliqué, et de soigner son vaisseau intérieur et extérieur autant qu'on peut, sans oublier de le confronter aux autres aussi, parce qu'on se construit pas seul. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite, parce que je me suis isolée après avoir quitté le lycée, et je suis restée toute seule pendant tellement d'années que quand je suis rentrée dans la vingtaine,
seule sans amis, vous voulez dire,
voilà, enfin, ou alors virtuellement. Et quand je suis rentrée dans la vingtaine, j'avais pas les codes sociaux. J'étais complètement à l'ouest et je savais pas comment interagir avec mes congénères. J'étais complètement comme un pingouin sur la banquise. Et je pense que c'est effectivement important de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître, mais de pas oublier aussi de se confronter aux autres et de se frotter aux autres pour se nourrir les uns les autres, quoi.
Merci à vous Jacques Parker. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, Lettre à l'ado que j'ai été. Merci également à vous Fanny Dargent, et merci à vous Maya Ernest d'être venue sur notre plateau. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier en coulisses. Merci également à Didier Cherouz, et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, trois femmes journalistes de trois continents commentent l'actualité pour nous en rire et en coup de gueule. À demain les voisins.